Vous écoutez France Culture.
Le journal Olivier Denray.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui à New York à la demande de la Ligue arabe. Il s'agit pour les Nations unies de prendre si possible position et de réagir à l'escalade de violence qui s'est emparée d'Israël et de la bande de Gaza, où 60 Palestiniens ont déjà été tués. Depuis trois jours, l'armée de l'État hébreu pilonne sans relâche des positions du Hamas, qui malgré tout continue de résister en tirant hier encore des dizaines de roquettes, dont certaines ont pris pour cible pour la première fois Tel Aviv et Jérusalem. Face à de telles scènes de guerre, la communauté internationale semble une fois de plus impuissante. Les Américains notamment sont très discrets. Frédéric Carbone.
D'une certaine manière, les États-Unis considèrent qu'Israël est un état de légitime défense. Pour le porte-parole du département d'État, aucun pays ne peut rester les bras croisés quand une organisation terroriste lance des roquettes sur des civils innocents. La diplomatie américaine voit donc une différence de nature entre les tirs du Hamas et les bombardements sur Gaza. Pour autant, que ce soit Barack Obama dans une tribune dans la presse ou John Kerry dans ses entretiens au téléphone avec Netanyahou et Abbas, tous les dirigeants américains appellent les deux parties à la retenue. Cette escalade militaire intervient en tout cas à un moment où la parole des États-Unis a un poids tout relatif dans la région. Tous les efforts pendant un an pour relancer un processus pacifique ont été vains. Le secrétaire d'État John Kerry n'a pas caché sa frustration à plusieurs reprises et les liens personnels à la fois avec le Premier ministre israélien et le président de l'autorité palestinienne ne sont pas excellents. C'est souvent dans ces périodes de vide, soulignent des experts, que les violences éclatent. L'émissaire habituel de Barack Obama était dans la région au début de la crise, pas pour une médiation, mais pour participer à une conférence. Il expliquait notamment que les deux camps étaient responsables de l'échec des négociations.
Et Frédéric Carbone, notre correspondant permanent à Washington. Au Royaume-Uni, les fonctionnaires sont en grève. Aujourd'hui, le secteur public britannique se mobilise contre l'austérité et le gel des salaires. Il y aura des manifestations un peu partout dans les rues. Le mouvement devrait être suivi puisque l'on attend au moins 1 million de grévistes. Une action fortement critiquée par le gouvernement de David Cameron. C'est une correspondance à Londres de Franck Madvon.
Il n'est pas fréquent de voir autant de catégories professionnelles se mobiliser en Grande-Bretagne, un pays où les grèves sont qui plus est devenues rares. Enseignants, pompiers, agents municipaux, employés des transports publics, fonctionnaires de divers services, ils seront tous dans la rue aujourd'hui pour protester contre l'austérité budgétaire et demander une hausse de leurs salaires qui ont à peine augmenté depuis 5 ans. L'économie britannique semble pourtant de retour sur les rails, la croissance est là, le chômage baisse, mais le pays n'est pas sorti de la rigueur qui devrait même se prolonger jusqu'en 2018 d'après le gouvernement. David Cameron balaye les critiques, il estime qu'il est inadmissible que des écoles soient obligées de fermer et s'en prend même au droit de grève, déjà sérieusement restreint depuis les années Thatcher. Il faut en effet un vote à bulletin secret pour pouvoir cesser le travail. Or, la participation a été faible. Le Premier ministre met donc en cause la légitimité du mouvement et il veut limiter encore le droit de grève en imposant une participation minimum. Il compte sur l'impopularité des grèves dans son pays, mais un sondage lui donne tort. 61% des Britanniques soutiennent la mobilisation.
À Marseille, les syndicats et la direction de la SNCM espèrent que les salariés de la compagnie voteront tout à l'heure la reprise du travail à l'issue de plusieurs assemblées générales. Hier, les négociations ont débouché sur des garanties, notamment celles qu'il n'y aurait pas de redressement judiciaire d'ici la fin de l'année. Cet après-midi, à Matignon, c'est le Premier ministre qui, lui, doit recevoir une délégation des acteurs économiques de la Corse. Elle vient réclamer des dédommagements et des aides pour compenser le manque à gagner provoqué par 3 semaines de grève. Marie Gatin compte.
Avec une première mesure la plus urgente, le gel des charges sociales et fiscales, pour compenser les pertes de ce début de saison, selon Agathe Albertini, la présidente du syndicat des hôteliers.
Le mois de juillet est un mois absolument catastrophique et nous avons tous un personnel important, c'est un personnel saisonnier et que les salaires sont très lourds. Les charges aussi, c'est pour cette raison que nous demandons le gel de ces charges sociales et de ces charges fiscales.
Autre mesure demandée, une aide donnée à l'agence du tourisme pour faire la promotion de l'image de la Corse. Jean-André Minigoni est le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Corse.
Un plan de suite de communication pour relancer l'activité en Corse. Les touristes n'ont plus confiance, on a une baisse de réservation, il faut essayer de communiquer tout azimut, il faut dégager un budget spécial. Et enfin, faudra peut-être une fois pour toutes qu'on se pose et vraiment qu'on réfléchisse sur un plan de développement global de la Corse. En réfléchissant tous ensemble, les élus, l'État, les socioprofessionnels, la société civile, sur un vrai plan de développement.
Une fois que ces mesures d'urgence seront mises en place avec un interlocuteur unique consacré à la Corse, les professionnels demanderont une indemnisation à l'État pour le préjudice subi.
La loi sur l'avenir de l'agriculture vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale. Elle prévoit notamment d'interdire l'épandage de pesticides à proximité des écoles et des hôpitaux. Le texte veut aussi mieux encadrer l'usage des pesticides et des antibiotiques dans les cultures et les élevages. Le projet de loi doit maintenant être validé par le Sénat avant une adoption définitive à l'automne prochain. Et puis après des semaines de tensions au sein de la majorité socialiste à l'Assemblée, quatre députés PS ont lancé hier un nouveau collectif. Il est baptisé Cohérence Socialiste. À l'initiative de ce projet, Valérie Rabault du Tarn-et-Garonne, Karine Berger des Hautes-Alpes, Yann Gallu du Cher et Alexis Bachelet des Hauts-de-Seine. Ces quatre élus veulent occuper un espace politique à mi-chemin, Catherine Dutu, entre les frondeurs et ceux qui soutiennent sans réserve la ligne du gouvernement.
C'est en discutant jusque tard dans la nuit, pendant l'examen de projets de loi qui fracturent la majorité à l'Assemblée, que les quatre députés ont décidé de lancer ce collectif Cohérence Socialiste. Karine Berger veut en finir avec les sujets tabous au sein du PS, notamment sur la politique économique menée par Manuel Valls, car les débats éclatent ensuite dans l'hémicycle et créent un climat délétère dans la majorité.
Moi j'ai assisté à des réunions du groupe où les gens s'insultent. Quelqu'un qui était chargé pour le groupe de faire deux colonnes, une colonne avec les députés dont ils sont sûrs et une colonne avec les députés qui pensent devoir lâcher pendant le vote. Moi, j'étais la seule qu'on avait mis au milieu. On ne savait pas très bien de quel côté j'étais. Je suis parfaitement bien au milieu. C'est-à-dire, je pense qu'évidemment, il faut être solidaire avec son groupe. Mais en même temps, on ne peut pas dire que les questions qui ont été soulevées depuis des semaines sont de mauvaises questions.
Alexis Bachelet, député des Hauts-de-Seine, détaille les divergences et les points de convergence avec les socialistes frondeurs.
Sur les conditionnalités des aides aux entreprises, sur le meilleur ciblage, notamment du CICE, on avait nous-mêmes fait des propositions au gouvernement, au Premier ministre. Et donc, il ne faut pas s'interdire de le faire. Simplement, il faut que ça soit dans un cadre régulé. À partir du moment où des députés considèrent que leur volonté individuelle est supérieure à l'intérêt du collectif, du groupe, il n'y a plus de groupe. Si tout le monde fait comme ça, c'est le bazar. Donc oui au débat, mais à condition qu'il soit régulé et dans un cadre politique qui est pour nous le Parti Socialiste, et ça nous distingue évidemment des frondeurs.
Le collectif Cohérence Socialiste présentera fin août ses analyses à l'université d'été du PS à La Rochelle avec la publication d'un livre dont le titre « Contre la mort de la gauche » est une réponse aux craintes de Manuel Valls.
Toujours de la pluie sur l'est et le centre de la France, de la grisaille sur les Pyrénées, de belles éclaircies sont annoncées sur l'ouest de la Bretagne aux Landes. Cet après-midi, le thermomètre oscillera entre 18 et 27 degrés. C'est Antoine Mercier qui vous présentera à 12h30 le prochain journal de la rédaction.